bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ma Préférence. Alors, on n'a pas Chloé aujourd'hui, mais on a Vanessa et Maëva. J'ai failli intervertir vos noms.
Bonjour Tiffaine.
Tiffaine.
Et on a bien sûr Léo à la technique. Bonjour Léo.
Salut.
Alors, comment allez-vous en ce début de vacances de Pâques?
Ah bah très bien, et toi Vanessa?
Oh bah oui, oh oui, ça fait du bien d'être en vacances, enfin... Pour les enfants.
il fait beau.
Oui, alors ça dépend, hein, parce qu'on a des giboulées de mars en avril quand même. Hein. C'est vrai que ça fait bizarre.
Oui, mais ça va, c'est pas encore trop... Ouais, ça passe. C'est pas tous les jours.
Oui,
non, plus.
Non, ça passe.
Ça passe, franchement,
il fait plus soleil que
ouais,
que
clairement.
Plus.
Bon, c'est encore un peu déséquilibré. Hein. On sent que des fois il fait chaud, des fois il fait froid. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Vanessa, je crois que c'est toi qui commence la danse, la première danse, avec des séries.
Eh oui, je vais parler d'une série alors qui est très connue hein, dans l'univers des légendes, dans l'univers des vampires. Eh bien oui, je parle de Vampire Diaries. Tu connais Maëva?
Oui, je connais. Je suis à la dernière saison là.
Oui, alors moi j'ai fini.
Il y a 8 saisons quand même. Hein
ouais, il y a 8 saisons. Alors, il y a 2 saisons qui ont 16 épisodes, dont la dernière. Donc ça va, t'es pratiquement à la fin. Et après, les autres saisons ont 22 épisodes. 22 épisodes bien complètes. Alors, pour vous résumer un peu l'histoire, hein, on peut essayer. Bien, c'est Elena qui a perdu ses parents, qui se retrouve un peu à une croisée des chemins, on va dire, et qui rencontre Stéphane Salvadore, qui est joué par Paul Wesley, et qui est un vampire. Mais il n'y a pas que lui. Eh oui, s'il n'y avait que lui, tout roulerait. Ce serait une série romantique. On aurait fait une saison. Mais non, il y a Damon Salvatore, qui est joué par Lian Somerhalder. Et bah oui, on est tous soit team Stéphane, soit team Damon. Et tu rigoles?
Rien qu'au nom, moi je dirais Damon. J'ai pas vu la série, mais ça dépend du caractère des deux garçons.
Bon, je pense que tout le monde est team Damon. Là.
Ah, ouais, pourquoi? Ouais, c'est parce que c'est le bad boy.
Ouais, voilà, c'est
le bad boy,
c'est
avec un cœur tendre.
Ah, avec un cœur tendre, je sais pas. Mais pour Elena, oui, il bat à 100%. Et il est complètement conquis par Elena. C'est ça. Voilà, dès la première rencontre, il est conquis. Mais c'est la petite amie de son frère Stéphane. Donc, c'est un peu chasse gardée. Hein. Même s'il a des sentiments, il va les enfouir. Alors, on parlait d'Elena. Elena Gilbert, elle est jouée par Nina Dobrev. Eh oui, Nina Dobrev. Et elle a un petit frère, Jeremy Gilbert, qui est joué par Stephen R. McQueen. Lui aussi, on l'aime bien.
Oui, on l'aime bien. On a l'impression que c'est notre petit frère aussi.
Ouais, il est très attachant. Et il grandit, hein.
Oui,
tout
oui.
Au long des saisons, il passe beaucoup de choses. Le pauvre, il lui arrive pas que des choses super sympas.
Elle fait combien de saisons, la série?
8 saisons.
Ah oui, donc on a le temps de voir vraiment évoluer les personnages.
Ah bah là,
quoi.
Tu les vois bien évoluer.
Ah, c'est
hein.
Cool.
Ah ouais, ouais. Franchement, bon, il y en a, on les perd. Hein,
bah bien sûr. Bah
ça évolue.
Hein, ça
et
fait
puis il y a le meilleur ami. Il y a celui qui est toujours là, le confident. L'amoureux transi au début d'Elena, c'est Matt Donovan, qui est joué par Zach Roerig. Et c'est vrai que Zach Roerig, bon, moi je l'adore, quoi. C'est vraiment... S'il y avait une autre team, je pense que j'aimerais bien Matt Donovan. Je trouve qu'il est très attachant, il est toujours là pour ses amis, même si c'est pas la bonne solution pour les humains. Il est là avant tout pour ses amis, qu'ils soient humains ou vampires.
Oui, c'est le bon ami de la série, hein.
Ouais, c'est ça, c'est toujours
Attendez,
lui qui est...
Comment il y a des vampires dans cette série?
Bah oui, il y a des vampires, des loups-garous.
Oh, waouh!
Ouais, ouais.
Incroyable, j'aurais jamais cru.
Dont un qu'on ne s'y attend pas. C'est vrai que... Moi, je lui dis, c'est pas spoilé, hein. Ça fait quand même quelques années qu'elle est sortie, la série, oui. Donc on sait tous que Tyler Lockwood, qui est joué par Michael Trevino, eh bien, c'est un loup-garou. Mais pas que, hein, parce qu'au fur et à mesure de la série, on découvre d'autres choses. Et on a Matthew Davis, qui joue Alaric Swassman, c'est pareil. Lui aussi, il a un rôle un peu ambigu, humain. Et puis, à un moment donné, il devient autre chose. Je peux pas dire qu'il y ait des vrais gentils dans cette série ou autre, à part peut-être Matt, qui garde toujours sa même ligne de conduite. Mais je dirais que chacun passe dans le noir. Chacun a son côté très sombre. Et surtout, les vampires, quand ils font taire leurs émotions. Un vampire, quand ça a ses émotions, il y a son cœur qui parle, il y a quand même un côté, voilà, s'il aime quelqu'un, il va tout faire pour sauver la personne et tout. Quand un vampire fait taire ses émotions, oh là là, carnage.
Ça devient un monstre.
Ça devient un monstre. Ça devient, pour Stéphane, par exemple, un boucher.
Ouais.
C'est d'ailleurs son surnom. Ouais, il a plus du tout d'émotions. Et ils y passent tous, pratiquement, puisque... Ouais, c'est bon, tu l'as vu. Attends, est-ce que tu l'as vu? Tu l'as vu? Oui, tu l'as vu. On parle de Caroline Forbes aussi,
oui.
Qui à un moment donné qui passe d'humaine à vampire.
Caroline qui est la meilleure amie d'Elena.
Oui, la meilleure amie d'Elena et de Bonnie Bennett qui est jouée par Kat Graham. Alors vous me direz pourquoi je vous parle de la série Vampire Diaries. Eh bien, c'est parce que Kat Graham sera le 27 et 28 avril à Paris pour le Paris Fan Festival. C'est sa première fois en France. De Mystic Falls à Paris, Kat Graham va venir rencontrer les fans de Vampire Diaries. Et la série est toujours sur Netflix. En intégralité, on peut voir la série, et même sur Prime Video, si je me trompe pas. Franchement, c'est une série qui a vraiment un potentiel énorme sur le côté fan. Il y a une fan base incroyable. Il y a même des conventions privées qui sont organisées sur Vampire Diaries. Il y en a une dernièrement. Il y en a une qui va arriver l'automne prochain, où vous pourrez, retrouver ensemble les frères Salvatore, Stéphane et Damon. Et là, je pense que les teams, ça va se battre. Parce que nous, on est peut-être team Damon, mais il y en a beaucoup qui sont team Stéphane. C'est vrai qu'entre les deux, le cœur peut balancer tout au long de la série, mais voilà, si vous aimez les bad boys, si vous aimez ce côté démon, parce que Damon, ça vaut bien. Vrai, non, c'est vrai, franchement. Et Bonnie, Bonnie Bennett, c'est la meilleure amie d'Elena Gilbert et de Caroline Forbes. Et c'est aussi une sorcière. Et c'est une sorcière incroyable. Tout au long de la série, vous allez découvrir des choses incroyables sur elle, incroyables sur sa famille et sur les autres familles. Que ce soit des Gilbert, des Salvatore, des Forbes, des Donovan, des Lockwood, parce que ce sont les familles qui ont créé Mystic Falls et qui sont à la base. Et du coup, elles vont s'entre-déchirer, ces familles, tout au long. On va le dire comme ça, tout au long de la série. Et vous allez avoir d'autres personnages, dont des personnages qui vont mettre un sacré bazar. C'est les originels. Les originels. Ils ont d'ailleurs leur propre série, The Original, qui est sortie et qui est disponible sur Netflix.
Donc en fait, l'univers est super bien développé.
Donc il y avait The Vampire Diaries en premier. Et après, il y a eu des spin-offs, dont The Original. Parce qu'on a rencontré une famille qui était vraiment les tout premiers vampires. On nous explique comment sont arrivés les vampires sur Terre, comment ça s'est fait avec des sorcières, tout ça. Et on rencontre des frères. Alors, il y a Klaus, il y a Elijah. Il y en a trois autres. Il y a alors la sœur Rebecca, bien sûr. Et Rebecca, d'ailleurs, tu la connaissais, l'actrice.
Oui, ça m'a fait tout drôle de la voir dans The Vampire Diaries.
Dans H2O.
Oui, voilà, elle jouait une sirène dans H2O.
Oui, qui change complètement par rapport à son rôle.
Oui, c'est sûr que là.
Alors, vous croyez pas à tout ce qui est mythique, légende? Eh bien, plongez-vous dans la série Vampire Diaries parce que vous rencontrerez. Des personnes de l'imaginaire, des humains, des contes et légendes. Alors là, vous en aurez pour ce qu'il faut. Et il y a des personnages aussi qui sont très attendrissants et qui sont importants aussi, même si ce sont des personnages secondaires. Moi, je pense à la shérif. La shérif Elizabeth Forbes, la maman de Caroline, qui est jouée par Marguerite Massintyr. Moi, je trouve que ce personnage est aussi important. Je trouve qu'elle apporte énormément. Je peux pas dire autre chose parce qu'elle m'a vraiment touchée. C'est vraiment une maman, voilà, qui est là pour sa fille, quoi qu'il arrive, même si au début elle est un peu réticente, parce que voir son enfant devenir un vampire, bah c'est pas du tout évident. Il y en a qui le prennent plus mal que d'autres, et vous le découvrirez tout au long de la série.
Et oui, parce que dans Mythic Falls, il y a une entente entre plusieurs personnes qui sont contre les vampires.
Tout à fait. C'est la famille des fondateurs, normalement, qui est contre les vampires, qui les chasse. Vous allez découvrir aussi des chasseurs de vampires. Vous allez découvrir des confréries de sorcières. Vous allez découvrir des monstres. Vous allez découvrir un certain diable. Tout ce que vous avez pouvez imaginer, tous les contes et légendes sont réunis dans The Vampire Diaries pendant les 8 saisons. Vous allez suivre et vous demander qu'est-ce qui va pouvoir arriver à vos personnages et si ils vont vivre ou trépasser.
C'est super chouette comme concept, parce que le fait qu'il y ait un univers comme ça assez développé, c'est un gros potentiel d'univers étendu. Et surtout que les univers étendus transmédia, ça commence à se faire de plus en plus, notamment entre les jeux vidéo. Il y a eu le jeu Frontier of Pandora avec Avatar de James Cameron, par exemple, que j'ai pas encore fait. Il y a eu la série Arcane pour League of Legends, le film pour Super Mario. Il y a vraiment un vrai potentiel de faire un gros univers étendu comme ça.
Oui, après The Vampire Diaries, c'est quand même tiré de livres.
Oui.
On va pas mentir. Après, bon. Ils ont pris certaines libertés et tout, mais c'est vrai que c'est adapté, c'est un roman qui a été fait. Je parlais tout à l'heure de Klaus. Klaus est joué par Joseph Morgan. On peut tout aussi bien l'aimer que le détester, ce personnage. Je trouve qu'il a deux facettes.
En fait, tous les personnages méchants, entre guillemets, ont leur part de bon.
Ouais. Ah, donc c'est pas manichéen. C'est un peu plus complexe.
Oui, c'est complètement ça. Klaus, il y en a, tu peux pas leur pardonner, mais il y a des choses, s'ils étaient pas là, on pourrait pas faire ça. Ils sont quand même des aides importantes. Rebecca, c'est pareil, elle aussi. Les personnages que vous allez découvrir dans la saison 6 et 7 aussi. On vous en dira pas plus, mais en tout cas, n'hésitez pas à découvrir cette série et à rencontrer Kate Graham. C'est les vacances, donc pourquoi ne pas aller faire un tour au Paris Fan Festival le week-end. Alors pour nous, ce sera plus les vacances, ce sera la fin des vacances, mais pour finir, on sait jamais. Et puis pour les autres zones, B et C, si je me trompe pas, eh bien vous serez en vacances, donc vous pourrez aller voir Kate Graham le 27 et 28 avril au Paris Fan Festival, la rencontrer. Et est-ce que vous savez que Kate Graham, c'est la sorcière la plus connue dans Mystic Falls, mais c'est aussi une chanteuse et elle a beaucoup d'albums à son actif. Donc, je pense que ça peut être très, très intéressant, voilà, de découvrir les autres facettes. Et c'est aussi une actrice, donc découvrir tout ce qu'elle a fait à côté. Mais c'est vrai que j'avais très envie de vous parler de Bonnie Bennett, parce que c'est un personnage qui est là tout au long des saisons. Je pense que c'est le personnage le plus important de la série, de la force humaine.
Oui, parce qu'elle est toujours là pour ses amis. Mais elle est prête à tout, en fait. Quitte à se sacrifier.
C'est l'héroïne de l'ombre.
C'est à peu près ça. Ouais, c'est vrai. Et puis, elle a un côté très touchant. Elle fait passer beaucoup de choses. Elle a un charisme fou. Franchement, dans cette série, malheureusement, ses cheveux, ils sont envoyés dans tous les côtés. Mais c'est vrai que... parce qu'elle a les cheveux frisés. Et dans la série, elle les arrête.
Oui, parce que la série voulait qu'elle les ait raides, et du coup, ça, à force de lisser, ça les a abîmées, et maintenant...
Ouais. Ben, maintenant, oui, ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que c'est une femme qui sera présente et qui, je pense, qui a beaucoup, beaucoup à partager avec ses fans. Alors, vous avez la possibilité, hein, vous avez le billet que vous prenez pour le Paris Fan Festival. Vous avez des conférences qui vont être organisées, qui seront gratuites. Et puis après, vous avez les extras avec les photos. Alors, la photo, le selfie, les dédicaces et même le meet and greet où vous passez un moment particulier avec les personnes. Il y a une dizaine de personnes avec vous et vous pouvez discuter avec l'acteur ou l'actrice en question. Donc là, avec 4 grammes, je pense que ça peut être un moment incroyable pour les fans de la série et les autres qui vont la découvrir, parce que je vous invite vraiment à découvrir cette série qui est pour les jeunes adultes, mais qui est vraiment vivifiante. Moi, j'ai passé un excellent moment. Et je peux vous dire que la dernière saison, j'en ai fait qu'une bouchée. Parce que j'avais vraiment envie de finir la série.
En une nuit, si j'ai bien compris.
Non, c'est pas en une nuit. C'est mensonge. Mensonge. C'est pas en une nuit. C'est en 48 heures.
L'exemple même du binge watching.
Mais très, très belle série. En tout cas, très beau moment. Et je vous propose... pour la pause musicale, eh bien, de rester dans la série avec un morceau dans l'une des saisons. Tiens, d'ailleurs, si vous regardez la série, vous me direz dans quelle saison c'est. C'est Cut de Plumb.
Oh,
On a Pascal au téléphone. Bonjour Pascal.
Bonjour à toutes.
Bonjour
ravie
Pascal.
De vous retrouver au complet ou presque.
Ah, non, il manque Chloé, mais on en a Eva. Ça va.
Donc ben, aujourd'hui, comme je pense que certains de nos auditeurs sont en vacances, je vais vous présenter deux romans pour se détendre un petit peu, selon ses goûts. Alors, à celles et ceux qui aiment les belles histoires, les sagas sur plusieurs époques, je propose L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, qui est sorti chez Calman Lévy en janvier. L'inconnu du portrait fait référence au tableau de Gustav Klimt, qui s'intitule Le portrait d'une dame, et qui, outre le fait qu'on ne sache pas exactement qui était son modèle, a eu un destin rocambolesque. Voici son histoire. La vraie histoire, donc. En 1910, Klimt peint le profil d'une jeune femme brune. Et, pour une raison inconnue, il le repeint par-dessus en 1917. Ce tableau est volé d'une collection privée viennoise en 1925. Il atterrit quelques jours plus tard, on ne sait pas aussi par quel phénomène, au musée de Plaisance en Italie. Il sera à nouveau volé en 1997, et ne sera retrouvé qu'en 2019, près du musée duquel il avait mystérieusement disparu pendant 22 ans. On le retrouvera plié dans un sac poubelle caché derrière un buisson. Une histoire pas possible, quoi. Et donc cette histoire, Camille de Peretti, elle s'en empare dans son roman et elle s'attelle à combler les manques. Et elle le fait avec une très belle ingéniosité. L'histoire commence en 1929, quand Isidore, cireur de chaussures près de Wall Street, abandonne sa brosse et son cirage pour s'intéresser à la bourse. L'ambition du jeune homme, c'est d'épouser celle dont il est tombé amoureux, la fille d'un riche industriel, mais vu son histoire personnelle et son manque de fortune, ça va s'avérer quand même relativement compliqué. Parce que l'histoire d'Isidore, elle débute près de Vienne en 1910, il a un an, et il vit avec sa mère célibataire, s'appelle Martha, c'est une jeune ouvrière d'usine. Et c'est cette année-là que Klimt peint son tableau et dans le roman de Camille de Peretti, la dame du portrait n'est autre que la jeune Martha. Voilà, je me garderai bien de vous raconter toute l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle se déroule donc de 1910 jusqu'à nos jours. Et je vous assure qu'elle vous captivera de bout en bout, parce que alors, le sens du romanesque de cette autrice, il est indéniable. Elle est très très forte. Niveau écriture, c'est de facture assez classique, mais c'est très agréable à lire. C'est un très bon roman de détente, de bonne qualité. Voilà, donc je vous conseille L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Et puis, à celles et ceux qui préfèrent les bons thrillers bien tordus, je sais qu'il y en a.
Non, c'est pas vrai.
C'est une autrice dont je vous ai déjà parlé et qui excelle dans le genre. Il s'agit de Claire Favant qui nous revient ce printemps avec un nouveau roman qui est édité chez HarperCollins Noir et qui s'intitule Le roi du silence. Et en voilà l'histoire. Il y a deux cousins qui, par deux fois, commettent à trois années d'intervalle des choses irréparables. Je vous fais pas le détail. Le père d'un des deux est officier de police et il les couvre. Et ça, il va le payer très très cher. Mais évidemment, un tel démarrage dans l'innommable en début d'adolescence, ça n'augure rien de bon pour la suite, vous vous en doutez bien. Par ailleurs, on va suivre la capitaine de police Corinne Amboise, qui a perdu toute crédibilité en envoyant en prison le fils d'un mania de la presse pour viol et meurtre. Sauf qu'une pièce au dossier qui prouvait son innocence avait été subtilisée par un des subalternes de l'inspectrice de police, horriblement sexiste et mesquin, et que le présumé coupable se fera lourdement agresser en prison et qu'il en sortira à l'état de légumes. Donc, cette pauvre fille, dans cette affaire, elle a tout perdu. Sa santé mentale, dans la foulée, son mari, sa fille, bref. Lorsqu'elle reprend du service, c'est sur une affaire, et c'est là que les histoires se rejoignent, à laquelle les deux cousins sont intimement mêlés. Il se trouve que la mère et la sœur polyhandicapée d'un des deux ont été sauvagement massacrés, et le fils, donc, accuse son cousin qui, lui, ne se défend pas. Alors, Corinne est persuadée qu'il endosse ce double meurtre, alors qu'il n'est pas coupable. Elle ne sait pas pourquoi il le fait, elle ne peut pas le prouver, et évidemment, plus personne ne lui fait confiance au sein de la police. Le cousin déclaré coupable est condamné à perpétuité, évidemment, et l'autre part s'installer dans le sud chez son père. L'histoire va se corser lorsqu'il refait surface quelques années plus tard, et Corinne, qui essaie toujours de regagner la confiance de sa hiérarchie, et qui n'a jamais lâché cette affaire, et qui est toujours persuadée que l'autre pourrait en prison alors qu'il n'a rien à y faire, se demande toujours pourquoi il n'a rien dit. Alors qu'un nouveau meurtre est commis, Corinne va se lancer à corps perdu dans une traque semée de toutes les embûches possibles et imaginables. Donc voilà pour le pitch. Donc la famille, c'est la source d'inspiration préférée de Claire Favant. Alors je pense qu'elle est inépuisable parce que tout y est passé, la mère, les fils, les cousins, les jumeaux, je veux dire dans chaque roman on a droit à une configuration de famille un peu particulière. Mais quand on a comme elle un talent pour les intrigues psychologiques, inventer des personnages tordus, manipulateurs, c'est vraiment un régal pour le lecteur. De se plonger dans ces histoires. Alors il y a des rebondissements incessants, elle vous souffle le chaud, le froid en permanence, et le final est toujours, mais complètement inattendu. Donc voilà, c'est un très bon thriller. Si vous aimez frissonner en lisant, vous courez acheter le dernier Claire Favant. C'est une tuerie. Non, ça, il faut pas le dire, parce que c'est... c'est vraiment le cas en plus.
Au sens propre comme au sens figuré.
Voilà, comme au sens figuré, voilà, tout à fait. Donc c'était mes deux recommandations pour ces vacances, si vous avez un peu de temps pour lire. Voilà.
Parce qu'on a déjà de quoi faire. Merci beaucoup Pascal.
Bah, merci beaucoup Pascal.
Avec plaisir, et puis bonne lecture, bonnes vacances si vous en prenez un peu, et puis à bientôt.
Du coup, Maëva, c'est ton tour.
Oui.
Alors, je t'ai proposé de parler d'un petit truc que tu aimes, donc je t'écoute. Il y a quelque chose dont tu as envie de nous parler.
Oui, je vais faire comme Pascal, je vais parler d'un livre. Alors, ça s'appelle L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante. Donc, c'est une autrice italienne qui est née à Naples. Et donc, L'Amie prodigieuse, c'est une saga de 4 tomes. Et je vais vous lire la quatrième de couverture. Je ne suis pas nostalgique de notre enfance, elle était pleine de violence. C'est la vie, un poids c'est tout, et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. Bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père, et Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre en ébullition. Alors, le livre commence lorsque Elena apprend la disparition de son amie Lila. Donc elles sont âgées à ce moment-là, et cette disparition va pousser Elena à raconter toute l'enfance qu'elle a vécue avec Lila à Naples dans sa jeunesse. Donc dans les années 50, donc c'était tout juste après la Seconde Guerre mondiale. Et on découvre qu'elles vivent dans un quartier très pauvre de Naples. Et elles ont une amitié spéciale entre toutes les deux. Elles s'aiment beaucoup, mais il y a de la concurrence. Qui sera la meilleure à l'école, qui sera la plus jolie, etc. C'est très mauvais, mais en même temps, c'est très bon parce qu'elles deviennent excellentes à l'école. Elles sont très intelligentes, arrivent à apprendre plusieurs langues, etc. Et malheureusement, une aura l'opportunité de continuer les études et l'autre, non. Elle devra travailler avec son père. Et il y a tout plein d'intrigues parce que ça raconte comment on vivait à cette époque-là, aussi les conditions de la femme, à quoi on s'attendait en fin de compte, en quoi l'éducation peut réussir à libérer ces jeunes filles de ces quartiers. Parce que elle vivait dans un monde où voilà, on se mariait à 15 ans, on avait des enfants, etc. Elle subissait des violences, elle ne savait pas vraiment quels étaient les rapports avec les hommes. Voilà, les hommes ne sont pas toujours très gentils, il y a beaucoup de violences, etc. Et là, j'ai lu le premier et je suis en train de lire le second tome. Et je vous conseille vivement cette lecture. Voilà, ça nous plonge dans un autre monde. Et au-delà que ce soit romancé, ça exprime aussi la réalité des choses qui s'est passée au XXe siècle en Italie.
C'est en quel format ?
C'est en format poche. On peut le retrouver en format poche, mais il existe en grand format aussi, à moins de 9 euros. Hein.
Ok, la plume, ça va, elle est quand même assez facile à lire. Ouais.
Oui, oui, ça a été traduit, mais c'est très bien écrit.
Ok,
voilà.
Bah, c'est super. Merci beaucoup pour cette recommandation. Tu peux nous rappeler le titre ?
L'amie prodigieuse.
L'amie prodigieuse. Ah, mais oui, j'en ai entendu parler.
Oui, il est sorti en 2011.
Il y a eu une adaptation.
Oui, oui, pardon, oui, voilà, tu m'as fait repenser. Oui, il y a une série sur Canal+. Je ne sais pas si tu l'as vue, Vanessa. Mm-hmm. Alors, moi, je ne l'ai pas vue encore.
Je dirais que c'est très bien fait, surtout la première saison. On ressent justement ce rapport conflictuel entre les deux et cette amitié fusionnelle. Donc, c'est vraiment super bien fait. Les décors aussi sont très, très bien. Et alors, moi, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas te dire si c'est une bonne adaptation ou pas. Mais tu nous le diras quand tu verras la série.
J'attends de lire les 4 tomes et après, je me plongerai dans cette série.
Ok, super. Je propose qu'on passe à la deuxième pause médicale. Je vous préviens, elle a à peu près zéro rapport avec ce dont je vais parler ensuite. C'est un morceau de Cécile Corbel, qui est une dame que j'aime beaucoup, qui avait participé aux musiques de Arietti et le petit monde des chapardeurs du studio Ghibli. Et donc, elle a continué, elle a fait son petit bout de chemin. Alors, elle a sorti un album, le dernier en 2023, j'ai plus le titre en tête. Je vais sûrement massacrer le titre de ce morceau, je vais essayer de reprendre la prononciation qu'elle a dans le morceau, c'est Hoi Heme, un truc comme ça qui veut dire bonne nuit, en gros. Et alors, c'est peut-être, potentiellement, lié à une idée, un projet peut-être en cours de construction, voilà, on sait pas, en rapport avec ce morceau. Donc, si ça peut vous donner un indice, je vous laisse réfléchir. je suis de retour pour l'instant toute seule, enfin, avec Léo. Donc moi, j'ai envie de vous parler d'un truc que je voulais faire depuis très longtemps, c'est un escape game. Parce que tu vois ce que c'est.
Ouais, si,
c'est
si,
c'est
si,
un
si.
Truc qui se démocratise de plus en plus. Il faut savoir qu'à Toulouse, on est la deuxième ville avec le plus de salles d'escape game après Paris. Quoi, les Toulousains, on s'est amusés. Et donc, bah, j'ai tenté un escape game et pour la première fois, je me suis tournée vers la franchise ou les studios Enigma City. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Enigma City, c'est en fait une franchise qui a plusieurs salles, justement, et qui est voilà, c'est le plus grand en fait escape game de Toulouse. Il a eu beaucoup de prix et de récompenses, donc s'il a eu notamment, il faut juste que je retrouve la petite info, il a eu les Escape Game Awards, il a gagné un prix aux Escape Game Awards en 2017, 2019, 2020 et 2022. Et il est numéro 1 sur TripAdvisor, voilà. Et donc la salle que j'ai faite, donc ils ont trois sites sur Toulouse. La salle que j'ai faite, c'est la salle qui a obtenu le prix du Game Award, le prix de la meilleure salle de la région Occitanie du Game Award 2022. Donc c'est l'étrange manoir Alexander. Et je vous lis un petit peu le synopsis. Peu de gens ont eu la chance de pénétrer dans le manoir d'Alexander Black. Mais à écouter les rumeurs, son manoir serait à son image, chaotique, délirant, rempli d'objets étranges et de secrets. Cet éminent savant a disparu depuis maintenant plusieurs mois. Pourquoi son majordome vous aurait-il convié dans ce lieu singulier ? Une incroyable aventure vous attend. Alors, c'est une salle qui est très familiale pour le coup. Faut savoir que, alors, elle est géniale pour développer une mécanique de groupe, une dynamique de groupe. Pourquoi ? Parce que moi, on était allés à 6. Donc c'est le maximum. Et il faut savoir que tous les amis avec qui j'y suis allée, c'était des amis que j'avais, mais tous ne se connaissaient pas forcément. Et j'avais choisi de faire un escape game parce que je savais qu'on allait être obligé de communiquer entre nous. Donc ça a été super chouette, c'est super immersif. Le cadre est vraiment top, on est transporté, je crois que ça se passe au 19e, il y a dans une espèce de cabinet de curiosité, il y a plein de machines, des vieux appareils photo, on doit trouver des indices, des choses comme ça, on doit décrypter un petit peu, c'est pas tant des énigmes, c'est plus des codes à décrypter. Donc ce qui fait qu'en fait bah c'est finalement très familial et c'est très accessible parce que c'est beaucoup de manipulation. Donc même quand tu es jeune, bah tu peux facilement y accéder. Il y a 3 salles en tout dans ce lieu. Alors pour rappeler, s'il y en a qui connaissent pas l'escape game, le but du jeu c'est on est enfermé dans une salle et il faut sortir. Voilà, donc il y a plein d'énigmes, plein de choses à résoudre. Il y en a plein de styles différents. Celle-là, elle est très bien pour commencer. Donc on a un moment où on monte, il y a une espèce de grosse réserve avec plein de grosses boîtes, de gros cartons, on doit escalader un peu dessus. Et après il y a une espèce de sous-sol. Je vais pas tout raconter parce que
sinon
c'est pas intéressant.
Ah ben non, parce que sinon tu vas donner les tenants et les aboutissants.
Déjà donc c'est super immersif. Là pour le coup, donc comme il y a beaucoup de manipulations et peu d'énigmes et qu'au final on bouge pas trop tant que ça, parce qu'il y a des salles qui demandent plus de conditions physiques, bah du coup c'est accessible pour les jeunes et ça peut être accessible aussi pour les personnes un peu plus âgées puisque voilà, ça demande pas trop d'énergie physique. On est à un niveau intermédiaire. C'est la plupart des escape games, c'est niveau intermédiaire. Et là, ce qui est super cool, mais ça, c'est ce qui est génial. Alors, les escape games, c'est un peu de budget quand même. Cette salle, elle était à... Alors, à 6, on en a eu pour 170, quelque chose comme ça. Donc, il faut y mettre un peu le prix. Après, c'est vraiment une expérience. Ça dure une heure. On a un game master. Donc, un game master, c'est un maître du jeu qui va suivre un peu le jeu et qui, du coup, en fait, il va adapter la partie à nous, en fait, à la façon dont on la joue. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il va repérer la dynamique de groupe. Nous, il a tout de suite repéré la dynamique de notre groupe et il a adapté sa partie en fonction. Donc, il nous expliquait. Alors, on a fait le jeu, la salle, on l'a fini en 1h30, quasiment. Sachant qu'au, par exemple, il avait repéré qu'au milieu, on commençait un petit peu à se disperser, à se perdre. Donc, en fait, il avait avancé la solution d'une énigme pour qu'ensuite, on puisse se repartir sur quelque chose. Donc, il y a quand même... Il était vraiment chouette, ce Game Master. Évidemment, les décors sont super cool. Et ça, c'est vraiment immersif. Il y a un côté très... Ouais, on a un peu envie de fureter partout. Et en même temps, il y a beaucoup d'informations. Dans ce jeu, juste pour le petit scénario, on est accueilli par un majordome. En fait, c'est un espèce de... Bah, de boîtier où il y a les voix qui sortent, en fait, qui jouent ce rôle. Et quand on a des infos, on a des disquettes, on lui donne et c'est lui qui nous dit, en gros, voilà, comment ça se passait. Après, bon, il y a tout le scénario, forcément, il y a un joli twist. Voilà, donc c'est une très 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 chouette salle pour commencer, pour le coup. Et puis Enigma Escape, bon voilà, c'est une. Alors je sais que là ils commencent à traduire leur salle pour s'exporter à l'international. Donc il y a quand même voilà, il y a comme c'est une bonne base pour commencer. C'est vrai que l'étrange manoir Alexander, c'est intermédiaire, c'est très très chouette. Voilà, pour ceux qui ont jamais fait, nous honnêtement, on pensait qu'on allait pas y arriver parce qu'on est quand même très différents, mais au final, bon, on l'a fait en 1h30. Mais on l'a fait. Voilà.
Principal, c'est de l'avoir fait.
Oui.
Il y a, quand tu parles d'escape game, il y a un escape game qui a été mis en place au Gaumont-la-Bèche, qui est gratuit, par rapport à la sortie du film SOS Fantôme, Ghostbusters.
Ah, ok, d'accord.
Et du coup, ils ont fait un escape game dans le hall.
Ah, c'est super,
et
ça.
Du coup, et voilà, gratuit pour les gens qui viennent au cinéma. Ça.
Parce que je sais qu'à aussi sur Toulouse, il y a une application où ils font des escape games grandeur nature, en fait, des façons de découvrir Toulouse
aussi,
et tout.
Ouais, tout à fait.
Ouais, donc ça c'est une super façon d'aborder les choses, quoi. Donc voilà, donc c'était voilà, une chouette expérience à faire, et n'hésitez pas à vous renseigner. Parce que Enigma Escape, c'est vraiment une chouette salle. Je sais qu'il y a Enigma City qu'ils ont mis en place où en fait on a une espèce de gros hub, donc c'est-à-dire un gros quartier avec plein de salles différentes. Enfin, avec genre 3-4 salles. Et quand on fait une salle, bah, en fait, des fois, on doit aller dans la salle. Et du coup, on passe par cet espace central. Donc, on peut croiser d'autres joueurs, en fait, qui font une autre salle. Ça rend un peu le truc un peu plus vivant. Ça, c'est
et
un
c'est
petit projet. Alors, Enigma City, je sais que la salle que j'ai faite, elle était rue Bayard. Et alors, Enigma City, il faut que je retrouve ce qu'ils sont sur 3 adresses. Ouais, c'est ça. Enigma City, ils sont en route de Loganet. Voilà, mais je crois que c'est dans le. C'est Nord, il me semble.
Après, il y a pas mal d'escape games. Il y en a un aussi du côté de Colomiers, qui est très très bien.
Ouais.
Colomiers, Plaisance-du-Touche. Ils ont 3 salles aussi. Il y a une salle, moi je m'en souviendrai toujours, il y a une salle égyptienne. C'est génial.
Wow, mais c'est beau, hein, franchement, l'immersion est incroyable.
Quoi.
Ouais. Bah, c'est ça. C'est, en fait, effectivement, c'est un budget, mais par contre, c'est une expérience personnalisée. La salle, elle est privatisée pour les joueurs. Le Game Master, il adapte la partie en fonction. Donc voilà, c'est quand même. C'est une vraie expérience. Quoi. Ça, c'est super chouette. Parce que son but, c'est qu'on s'amuse. Après, je sais qu'il y a des salles plus compétitives où là, bon, voilà, forcément, quand le chrono s'arrête, il s'arrête et point final. Mais là, effectivement, il était plus en adaptation et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a pris un créneau tardif. On l'a pris à 21h. C'était le seul créneau qui restait. Et donc, il a aussi. Bah, du coup, choisi, effectivement, il a dit, je vous ai rallongé parce qu'on n'avait rien après, quoi. Donc, voilà. Et non, le Game Master était au top. Franchement, le Game Master était super chouette. Et je pense qu'on va pouvoir finir l'émission là-dessus. Bon, merci beaucoup, Vanessa, d'être venue nous parler de Vampire Diaries.
Merci beaucoup,
Stéphane. C'est un peu un retour, parce que ça fait depuis quoi.
Ouais, ça fait quelques années.
Ouais, c'est pour ça, il y a certains, sorti, du coup, qui ont grandi avec cette série, quoi.
C'est bien, mais il y en a qui peuvent les découvrir.
Bien sûr, ça peut être une façon de le découvrir. On salue Maëva aussi, qui a dû partir parce qu'on a un peu trop dérivé. Merci beaucoup, Léo, pour la technique, comme d'habitude, et pour tout le travail que tu fais à la radio. Et on remercie aussi Pascal Sabatier pour ses recommandations. Et voilà, vous pourrez retrouver cette émission sur le site et sur l'application de la radio. On vous souhaite une très très belle semaine, de très belles vacances. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.